Vous écoutez RTL.
Vous êtes avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues parce que la curiosité, évidemment, est un très vilain défaut.
Mais oui, Vincent, alors on a essayé avec Sidonie de faire aussi bien qu'Anne Le Hénaff dans le bruit de balle de tennis.
Mais allez-y.
Moi, je suis nul. J'ose même pas essayer.
Vous lancez une balle, vous la rattrapez même pas.
Si, il y a Anne qui rattrape là, à l'autre studio.
Oui.
Bon, on va faire le match. En tout cas, on va se poser aussi plein de questions sur le vin et les viticulteurs, tout autre chose. Ouais. Peuvent-ils se prémunir, vous en parliez, contre les orages et la grêle? Le bio est-il forcément meilleur pour la santé? Ou alors le rosé va-t-il vraiment manquer cet été? Vous savez que ça a été dans l'actu ces derniers jours.
Arrêtez de nous faire peur.
14h30 sur RTL.
Et tout de suite dans la curiosité, ces Américains qui ne veulent surtout pas que l'on touche à leur fusil.
RTL. Las Vegas, 1er octobre 2017. Les États-Unis vivent la plus grande tuerie de masse de leur histoire. 58 personnes sont abattues et plus de 500 blessées. Comme à chaque fois, des voix s'élèvent pour la régulation des armes.
La curiosité est un vilain défaut.
Et comme à chaque fois, ces appels restent lettres mortes.
Principalement à cause de la NRA, qui depuis plus de 15 ans est parvenue à bloquer systématiquement toutes les propositions de loi sur la régulation des armes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
De nombreux Américains considèrent aujourd'hui que toute tentative de réguler le port d'armes est une atteinte à un droit fondamental garanti par la Constitution.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre bain de curiosité sur RTL. C'est jusqu'à 15h, une ébullition de questions, des réponses passionnantes, étonnantes, bouleversantes parfois, le tout dans la bonne humeur. Vous allez bien Thomas?
Oui, ça va très bien Sidonie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici, vous le savez, on s'intéresse à tout. L'histoire, l'aventure, la science, les grands destins, la musique, la nature. Et donc, aujourd'hui, pour commencer, les coulisses de ces organisations qui font l'actualité.
Comme celle de la NRA, la toute puissante association de défense du port d'armes aux États-Unis. Bonjour Stéphane Loignon.
Bonjour.
On est content de vous accueillir. Vous êtes journaliste, reporter au Parisien aujourd'hui, week-end de retour de Dallas, où vous étiez pour assister à un discours très particulier, celui du président Donald Trump à la convention annuelle de la NRA. C'est combien de participants et dans quelle ambiance tout ça?
Il y avait à peu près 80 000 participants, donc dans une ambiance assez familiale. En fait, j'étais un peu surpris, mais donc des gens un peu de tous les âges.
Kermesse,
C'était comme une kermesse des armes, disons. Donc un grand salon où on trouvait tout un tas de stands où on pouvait vendre des fusils mitrailleurs, des silencieux, tout un tas de pistolets de toute taille, de toutes sortes. Des accessoires comme par exemple des sacs à main où on pouvait glisser son pistolet. Enfin, tout ce qui fait l'univers des armes. Et il y avait aussi ces conférences qui étaient organisées où notamment Donald Trump est venu.
Est-ce que les enfants ont le droit d'entrer dans cette convention annuelle des armes?
Il y en avait. Alors il y avait même une matinée pour les enfants le dimanche matin. Et sinon, ils venaient avec leurs parents se balader, essayer les armes, bon, qui étaient quand même pas chargées, hein, il y a quand même des limites.
Parce qu'il y a un marché des armes pour les enfants, c'est ça?
En fait,
on soupçonne pas forcément.
Non, alors il y a pas de.
Il y a des armes un peu adaptées quand même.
Il y a pas de. Il y a quand même une loi qui limite à 18 ans l'âge légal d'achat d'une arme. Il y a quand même ça. C'est à peu près la seule loi qui existe. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais donc, les enfants venaient plutôt avec leurs parents. Et puis, certains s'exercent au tir en famille. On a rencontré des parents qui expliquaient comment ils avaient fait tirer pour leur première fois leur fils de 6 ans, leur fille de 5 ans. Voilà.
Et alors, le discours de Donald Trump, il a été particulièrement choquant. On en a parlé ici même parce qu'il a évoqué les attentats du 13 novembre 2015 au Bataclan. Alors, on va l'écouter en anglais. Il dit « Les terroristes ont pris leur temps, ils ont abattu les otages les uns après les autres. » Écoutez.
« They took their time and gunned them down one by one. Boom, come over here. Boom, come over here. Boom. »
Je crois que Donald Trump a recommencé il n'y a pas très longtemps en mimant des gestes de terroristes lors d'un discours. Qu'est-ce qu'il veut prouver? C'est quoi quel message il veut faire passer aux membres de l'association de défense du port d'armes?
Eh bien, le message, c'est le message que matraque la NRA. Un des principaux arguments, c'est que quand un méchant est armé, il faut un gentil armé pour arrêter ce méchant qui est armé. Et donc, il expliquait aux gens qui étaient là et qui en étaient convaincus que s'ils avaient été présents au Bataclan ce soir-là avec leurs armes, eux, ils seraient intervenus et ils auraient pu empêcher ce massacre avant qu'il ne se produise ou au moins limiter un petit peu les dégâts. Et les gens en étaient convaincus, ils étaient absolument convaincus.
Oui, ils les caressent dans le sens du poil en disant ça.
Mais applaudissements, enfin pas du tout la controverse qu'il y a eu en France.
Il se rattrape un petit peu Donald Trump quand il fait ça, parce que si je me souviens bien, 5 jours après la tuerie du 14 février dernier au lycée de Parkland, on est en Floride, où un ancien élève avait tué 17 personnes. Il voulait renforcer une certaine loi, Donald Trump, mais oui. qui ne plaisait pas trop à l'NRA.
Alors effectivement, Donald Trump, il est un peu changeant, notamment sur cette question-là. Il avait envisagé de passer à 21 ans l'âge minimum d'achat pour les fusils et également de renforcer les contrôles préalables à l'achat qui sont obligatoires dans les magasins.
Il est tout puissant. Pourquoi il n'a pas travaillé sur cette loi, Donald Trump ?
C'est ce qu'il croyait. D'ailleurs, c'est ce qui est amusant, c'est que quelques jours après avoir fait cette déclaration, il a reçu des parlementaires américains et il leur a expliqué « Oui, la NRA n'a pas du tout autant d'emprise sur moi que sur vous, vous verrez. » Et puis, le lendemain de cette réunion, il a reçu cette fois-ci le lobby de la NRA et puis le lobby de la NRA lui a expliqué que non, il ne fallait pas dire ça, faire ça. Et il a changé d'avis de manière assez spectaculaire.
L'une des multiples volte-face de la NRA, donc c'est un lobby qui fait pression sur les gouvernements. Juste un chiffre, c'est quoi le budget de cette association pour faire pression ?
C'était 410 millions de dollars en 2016, total du budget. Et ils ont dépensé par exemple sur cette somme 54 millions de dollars directement pour soutenir des hommes politiques ou contrer des hommes politiques dans des campagnes électorales en faisant des spots publicitaires. Voilà,
on va le détailler dans un instant comment la NRA est devenue le lobby le plus puissant des États-Unis. Réponse tout de suite, les curieux.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Là où il y a de la lumière, il y a toujours de l'ombre. Elton John, Gérard Depardieu, les Sœurs de Neuve, mais aussi Amy Winehouse ou La Calas, La Gloire et ses fêlures. Chaque samedi, en toute confidence, je vous raconte ces extraordinaires trajectoires où le succès cache souvent des pièges, des doutes ou des secrets d'enfance, les célébrités et l'envers du décor, c'est ensemble et c'est confidentiel sur RTL.
Confidentiel, présenté par Jean-Alphonse Richard, tous les samedis à 14h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Aux États-Unis, 30 000 personnes meurent chaque année victimes d'armes à feu. Un bilan terrible pour un pays qui se considère comme une terre de rêve et de liberté.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
300 millions d'armes à feu sont détenues par des particuliers. Parmi elles, des fusils d'assaut semi-automatiques à grande puissance de feu.
RTL.
Aux États-Unis, près de 13 milliards de dollars sont dépensés en armes à feu chaque année. La facture des dommages consécutifs est à la charge de la société.
On est bien entre curieux sur RTL.
Voilà, extrait d'un documentaire diffusé sur la chaîne Arte en 2014. États-Unis, la loi des armes et les chiffres ont encore augmenté. Depuis, on découvre les secrets de la NRA, l'Association Nationale de Défense des Armes, à l'occasion d'une enquête de nos confrères du Parisien Week-end en partenariat avec RTL. Stéphane Loignon, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes donc rendu à la convention annuelle de la NRA au Texas, c'était à Dallas. Avant que vous nous racontiez encore un peu plus les coulisses de cette enquête, je voudrais qu'on pose le cadre légal. Qu'est-ce qu'on peut faire aux États-Unis quand on veut s'acheter une arme? C'est facile, c'est ouvert, c'est en libre-service? Comment ça marche?
Alors, c'est très facile et ça dépend des États. D'abord, je pense que c'est important de dire que la Constitution garantit le droit du port d'armes. Il y a un amendement qui s'appelle le second amendement qui garantit normalement dans le cadre d'une milice le droit de porter et de conserver une arme. Et c'est l'argument légal toujours avancé par les partisans de la NRA. Ensuite, il y a des réglementations fédérales donc qui s'appliquent sur les 50 États, notamment un âge minimum de 18 ans pour l'achat d'armes, et également des contrôles préalables à l'achat qui sont obligatoires dans les magasins.
Et on peut acheter quel type d'armes? Jusqu'à des armes de guerre, c'est ça?
On peut acheter jusqu'à des fusils semi-automatiques, par exemple une Kalachnikov ou des fusils qu'on voit normalement, l'équivalent des M16 de l'armée américaine, on peut les acheter. L'autre chose aussi qui moi, m'a surprise quand j'ai vu comment ça se passait au Texas, c'est que les contrôles, ces fameux contrôles préalables à l'achat, donc ils ne sont obligatoires que dans les magasins, mais il y a aussi des foires aux armes où là des particuliers vendent entre des armes, un peu comme une brocante sauf que c'est du neuf.
Il n'y a pas de traçabilité là.
En fait, il suffit de montrer sa pièce d'identité. On note même pas votre nom et vous pouvez repartir avec un fusil semi-automatique.
Et donc il n'y a pas besoin de port d'armes.
Et là, il n'y a pas besoin d'aucune licence, on contrôle aucune base de données. Ça, c'est dans ce cadre de ce qu'ils appellent les gun shows. Et alors, suivant les États, il y a plus ou moins de contrôle. Mais au Texas, il y avait zéro contrôle, juste vous montrer votre pièce d'identité.
À quel point la NRA a des lobbyistes puissants? Qui drive ça? Comment ça se passe? Comment ils interviennent auprès des députés, des sénateurs, auprès du Congrès américain pour peser sur le vote des lois et même l'écriture de ces lois?
Alors, la NRA a une branche spéciale. La NRA elle-même, c'est une association d'armes et elle a sa branche lobby. Dans cette branche lobby qui est installée à Washington, ils vont faire pression soit directement sur le président, comme on l'a vu où le lobbyiste de la NRA a rencontré Donald Trump après ses déclarations pour le faire changer d'avis.
Il s'appelle Chris Cox, c'est quelqu'un exactement. De très important.
Voilà, c'est le visage du lobby de la NRA aux États-Unis. Soit sinon, ils vont faire deux choses. Ils vont financer des campagnes électorales, donc soit celle du président, mais celle aussi de tous les candidats qui sont favorables au port d'armes au Congrès ou au Sénat. Donc là, par exemple, en 2018, il y a une liste de 156 candidats, tous républicains à l'exception de trois, qui sont soutenus financièrement par la NRA pour les prochaines élections, par exemple.
C'est pas de la corruption, c'est du financement de campagne.
Voilà, financement c'est de légal. Campagne. D'ailleurs, c'est des dons qui sont finalement assez modestes, hein, parce que ça va de 500 à 10 000 dollars, mais en complément de ces dons-là, il y a aussi l'appel qu'ils font à leurs membres au vote de soutien ou contre la personne. Et ça a beaucoup d'influence.
Est-ce que ça a été facile d'enquêter? Est-ce que vous vous êtes présenté comme journaliste français pour poser des questions lors de ce congrès annuel?
Alors oui, je me suis présenté comme journaliste français, mais ça a quand même été un peu compliqué parce qu'en fait, ils ont refusé de nous accréditer. Ils accréditent aucun média étranger, soi-disant, parce qu'ils n'avaient pas les ressources. Mais bon, on a vu qu'ils avaient 410 millions de dollars de budget. Donc ils avaient
vous étiez trop cher pour eux, Stéphane Moignon. Donc vous étiez juste simple visiteur.
Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est on a dû, avec le photographe, prendre notre carte de la NRA. Donc on a cotisé, $30 chacun pour devenir membre de la NRA et avoir le droit de rentrer dans le salon. Où là ensuite, on a posé nos questions un peu discrètement, mais bon finalement pas si discrètement que ça, et on n'a pas été embêtés.
Donc vous avez rejoint les 5 millions, c'est ça, de membres de la NRA, je ne vous félicite
exactement.
Pas. Et vous avez découvert dans ce salon du congrès annuel de la NRA que cette association avait ses propres médias. Comment elle communique? Comment elle fait passer ses messages à ses adhérents?
Eh ben, alors elle a 4 magazines qu'elle envoie à ses adhérents, donc bientôt je vais avoir le plaisir d'en recevoir. Et elle a également sa chaîne de télé, web télé, qui s'appelle la NRA TV, où il y a différentes émissions, des talk shows, où elles reçoivent des gens qui sont favorables au port d'armes.
Et parmi ces talk shows, il y en a un qui est mené par une femme qu'on a vu là, faire irruption sur les plateaux télé après chaque tuerie de masse. Elle s'appelle Dana Loesch. Grande, brune, quadragénaire, qui maîtrise très très bien l'art de communiquer. On va vous raconter son histoire dans un instant sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
55 millions d'Américains possèdent au moins une arme à feu. 310 millions d'armes sont en circulation dans un pays qui compte 325 millions d'habitants. Des chiffres qui font tourner la tête. Tout ça sous le regard bienveillant et le lobby de fer de la NRA, l'Association Nationale de Défense des Armes. Stéphane Loignon, vous êtes reporter au Parisien aujourd'hui week-end. Vous étiez à cette convention annuelle de la NRA où Donald Trump affirmait que si les Français avaient été mieux armés, il n'y aurait pas eu, enfin armés tout court d'ailleurs, il n'y aurait pas eu un tel massacre au Bataclan le 13 novembre 2015. Bah tiens, si l'on compare les deux pays, est-ce qu'on est vraiment plus en sécurité aux États-Unis où les armes sont en vente libre?
Aux États-Unis, il y a plus d'homicides par arme à feu qu'en France, et même beaucoup plus. Il y en a 5 à 6 fois plus. On a environ 3,1 homicide pour 100 000 habitants aux États-Unis, contre 0,6 en France. En Allemagne, c'est même 0,1. Mais il faut savoir quand même qu'en France, on a plus d'armes qu'on ne pense. On a plus de 4 millions d'armes officiellement détenues, plus toutes celles qui circulent et qui ne sont pas officiellement détenues. Donc j'ai appris à l'occasion de cette enquête qu'il y avait plus d'armes qu'on ne pensait en circulation aussi chez nous.
Et donc il y a cette femme dont on parlait qui est devenue porte-parole de la NRA, qui vient sur les plateaux télé aux États-Unis défendre les arguments de cette association. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, on la voit souvent, parce qu'à chaque tuerie de masse, notamment dans les lycées, elle ressort et elle fait une apparition médiatique. Elle s'appelle Dana Loesch. C'est quoi son parcours? C'est qui cette femme?
C'est un peu le visage avenant et impitoyable de la NRA qu'on en voit débattre effectivement sur CNN, sur CNBC, et puis qui a effectivement cette émission aussi, sa propre émission sur NRA TV.
Ah, c'est une animatrice télé
aussi. C'est à la fois une porte-parole du mouvement et une animatrice de la chaîne de la NRA où elle reçoit des vétérans de l'armée ou des shérifs locaux qui vous expliquent, qui sont tous très partisans de l'autodéfense.
Et quand Sidonie disait qu'elle est sexy, elle en joue de ça sur des photos, sur des...
On dirait une actrice américaine qui pose avec des flingues.
C'est vrai,
franchement, ouais.
on dirait une actrice, elle est en robe, elle est assez...
Talon aiguille.
C'est une très belle femme, très élégante. Et on voit placarder sur des immenses affiches son visage au congrès de la NRA, aux côtés du président de la NRA ou du président du lobby.
Elle est née à quelle époque la NRA? Est-ce qu'elle a eu cette fonction de protéger comme ça le port d'armes aux États-Unis?
Alors, elle est née en 1871 et au début, c'était, même pendant longtemps, une association de chasseurs et d'amateurs de tirs sportifs. Quand on se replonge un peu dans l'histoire de la NRA, on voit qu'ils étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup moins radicaux qu'ils ne sont devenus aujourd'hui, puisque en 1934, le président de la NRA expliquait qu'il n'était pas favorable au port d'armes généralisé, que lui-même, il se baladait pas tout le temps avec une arme. Enfin, des discours qui paraissent vraiment très en décalage avec ce qu'on entend aujourd'hui.
Vous avez discuté avec des membres de la NRA, vous étiez à cette convention, Stéphane Loignon, annuelle de la NRA. Et quand vous demandez à ces partisans du port d'armes, vous leur dites, mais attendez, il y a toutes ces tueries collectives, vous êtes quand même le pays au monde où il y en a le plus, il faut peut-être que ça cesse. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Comment ils justifient cette légalisation du port d'armes?
Alors déjà, pour eux, il y a un argument constitutionnel, c'est-à-dire qu'ils estiment que ce droit est inscrit dans cette constitution, que c'est presque un droit qui leur est accordé par Dieu.
Donc c'est inaliénable.
C'est inaliénable. Ouais. Qu'ensuite l'autodéfense, c'est une nécessité quand on voit la violence qui est autour dans la société. Et que d'ailleurs, il y a des pays comme le Mexique, ils prennent le Mexique comme exemple, où il y a un contrôle des armes et ils sont affreusement sanglants, bien plus que les États-Unis.
C'est-à-dire pour eux, c'est pas l'arme le problème, c'est celui qui la porte, c'est ça?
Exactement, ça c'est un argument récurrent. L'arme, c'est un outil, c'est comme une voiture, disent-ils. Avec une voiture, on peut aussi tuer des gens et pourtant on n'interdit pas les voitures.
Mais il y a quand même un mouvement, il ne faut pas caricaturer l'Amérique d'aujourd'hui, il y a un mouvement qui se lève notamment à cause de ces tueries de masse dans les lycées contre le port d'armes. Alors pas pour l'interdire totalement, ça semble totalement improbable aux États-Unis, mais pour le limiter. C'est quoi ce mouvement en fait?
Alors là, il y a un mouvement de jeunesse qui est assez fort, qui a pris son essor après la tuerie de Parkland qui a eu lieu mi-février. Mmh. Donc un certain nombre de lycéens de ce lycée de Floride ont créé un mouvement qui a abouti à une immense manifestation de 800 000 personnes le 24 mars dernier à Washington. Donc c'était la plus grande manifestation pour le contrôle des armes depuis une manifestation qui avait eu lieu en 2000, qui était plutôt une manifestation de mamans. Enfin, c'était les mamans contre les armes. Mmh. Et quand on voit les gens qui sont aujourd'hui dans le camp pour le contrôle de la vente d'armes, ce sont beaucoup de jeunes, beaucoup de parents aussi.
Et alors, je le disais, ils ne demandent pas l'interdiction des armes aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils espèrent?
Ils réclament des choses qui nous paraissent assez basiques, comme la généralisation des contrôles préalables à l'achat partout. Parce que c'est vrai que pour le moment, comme on l'a expliqué, dans ces gun shows, dans ces foires aux armes, on suffit de montrer une pièce d'identité, on note même pas votre nom, on vérifie aucun antécédent, et puis vous pouvez partir avec un fusil semi-automatique. Donc c'est un peu le paradis du tueur de masse, quoi.
Dans un instant, on découvre les autres pires ennemis de la NRA, et puis dans la seconde partie de l'émission, on va casser tous les clichés sur le vin à consommer avec modération. Bien sûr.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Avec Stéphane Loignon, reporter au Parisien aujourd'hui week-end. On se balade dans les coulisses de la convention annuelle de la NRA. On est en partenariat avec RTL et on découvre les pires ennemis de cette association de légalisation du port d'armes américain. Au top de ces ennemis, on trouve qui ?
Hillary Clinton. Alors Hillary Clinton, c'est vraiment ce que les partisans de la NRA rejettent le plus, l'incarnation d'une démocrate en plus qui juge corrompue et puis qui menacerait leur droit inaliénable au port d'armes.
Ça veut dire qu'ils ont dépensé de l'argent lors de la campagne présidentielle?
Ils ont dépensé énormément d'argent. C'est-à-dire qu'ils ont...
Contre elle.
Et ça veut dire quoi, dépenser de l'argent contre elle?
Alors ils ont dépensé en tout 30 millions de dollars pour soutenir Donald Trump. Dans ces 30 millions de dollars, il y avait 19 millions qui étaient contre Hillary Clinton. C'est-à-dire des spots publicitaires qui disent matraquer aux gens, qu'elle allait venir leur enlever leurs armes chez eux, etc.
Et parmi ses ennemis jurés, il y a aussi Barack Obama.
Alors Barack Obama, pas beaucoup mieux, effectivement. Lui, il a été...
Pour la NRA.
Pour la NRA. Voilà, il a été très redouté par les partisans de la NRA. Au final, il n'a pas fait grand-chose. Il a quand même essayé de faire une loi début 2013 sur le contrôle des armes, qui n'a pas pu passer au Congrès. Et il a aussi eu un effet paradoxal, c'est-à-dire que sous son mandat, il y a eu une explosion des ventes d'armes, parce que les partisans du port d'armes se sont précipités sur les magasins d'armes en se disant peut-être qu'il va nous enlever ce droit.
Faisons le plein. Et la dernière ennemie jurée en date de la NRA, est beaucoup plus jeune, elle s'appelle Emma Gonzalez.
Voilà.
Qui
alors Emma Gonzalez, c'est une lycéenne de Parkland, en Floride, qui donc a survécu à la fusillade et qui est devenue le visage de ce mouvement de contestation. C'est quelqu'un de très jeune, hein, qui je crois qu'il doit avoir 19 ans maintenant, mais qui est aussi très charismatique et qui est devenue voilà, l'espoir de renouveau pour le camp favorable au contrôle des armes.
Merci infiniment Stéphane Loignon.
Merci,
votre enquête est à découvrir dans Le Parisien aujourd'hui, week-end, en kiosque dès demain, avec des photos assez hallucinantes. Vous étiez vraiment dans les coulisses.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.